Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis Jean Dalibard, professeur de physique ici, et donc j'ai l'honneur de présider cette section. Avant de donner la parole au prochain orateur, je voudrais dire en deux mots la profonde admiration que j'ai moi-même, autant pour l'œuvre que pour la personne Anatole Abraham. Je n'ai pas connu Anatole Abraham aussi bien que la plupart d'entre vous, mais disons que je l'ai rencontré, moi, quand je faisais ma thèse sous la direction de Claude Kenanoudji à l'École normale supérieure. Et je dois dire qu'il a toujours été, pour un jeune thésard comme moi, d'une extrême bienveillance. C'était sa gentillesse qui était frappante. Certains des précédents orateurs ont mentionné qu'il pouvait être dans d'autres occasions d'une certaine causticité, voire même d'une certaine férocité. Mais je dois dire que moi, en tant que thésard, jeune interlocuteur face à lui, au contraire, ce qui frappait, c'était son écoute, peut-être via cette équation pilote que Serge a évoquée ce matin, qui était une sorte de dénominateur commun entre ce que moi je tentais d'apprendre et ce que lui connaissait si bien. Mais donc pour moi, Anatole, c'est vraiment quelqu'un qui savait parler aux beaucoup plus jeunes que lui et leur apprendre des choses. Voilà, donc l'orateur qui va donc parler dans cette session, c'est André Sirota, biophysicien, spécialiste de médecine nucléaire. André Sirota a été directeur de la science vivante du CEA de 1993 à 2001. J'espère ne pas me tromper, et il a été directeur général de l'INSERM, puis président directeur général de l'INSERM, donc depuis 2009. Voilà, et je lui laisse la parole donc pour parler de résonance magnétique nucléaire appliquée à la médecine et l'apport d'Anatole Abraham en France.
Merci bien, et je suis effectivement depuis quelques mois revenu sur les lieux du crime au CEA. Alors, je voudrais remonter avant de parler du rôle qu'a eu Anatole Abraham, vous allez voir pourquoi, dans le domaine de la médecine et de l'imagerie, qui remonte à bien loin, puisqu'il y a toujours eu le désir de voir la maladie. Et regardez cette phrase de Bichat, « Ouvrez quelques cadavres et vous verrez aussitôt disparaître l'obscurité que la seule observation n'avait pu dissiper ». C'est presque des alexandrins. Et ensuite, cet effet à l'échelle histologique avec Virchow, et puis, avec Röntgen, les rayons X, la méthode totalement non-invasive. Alors, est apparu plus récemment, comme leur nom l'indique, des techniques qui permettent de couper le corps de façon non-invasive, et ça a été le mariage à la fois de la physique et de l'informatique. Il n'y aurait pas eu l'informatique avec des moyens de calcul qui permettent dans le milieu médical, d'abaisser considérablement les prix en même temps qu'on avait une puissance de calcul plus grande, eh bien, qui a donné lieu à ce que vous connaissez, au scanner, à la tomographie par émission de positons, pour lequel on a été les premiers à utiliser avec un autre groupe américain à Orsay. Et je ne vais pas vous faire évidemment ici distinguer toutes les méthodes d'imagerie depuis la tomographie par simple photon, mais je vous parlerai de la spectroscopie RMN in vivo, bien entendu, et de l'IRM fonctionnel, et je vous dirai un mot, vous verrez, de la magnétoencéphalographie. Alors, en fait, mes premiers contacts avec Anatole Abraham étaient évidemment, vous le voyez sur cette photo, lorsque je présentais la nouvelle caméra à positon à temps de vol, qui avait été faite par le Leti en 84, vous reconnaissez Hubert Curien et le ministre de la Santé, Edmond Hervé, et sur la deuxième photo, où est Anatole Abraham, Jean Théillac, qui était le haut commissaire de l'époque. Mais je ne vais pas vous parler évidemment de tomographie par de positon, je vais vous parler de la spectroscopie RMN in vivo. Alors ça a été dit il y a quelques moments, on a parlé de Bloch, de Purcell, le livre d'Abraham en 61, et puis les premières applications in vivo avec Damadian en 71, et puis Lauterbourg en 73, et l'imagerie de diffusion en 1985 avec Denis Le Bihan, qui était avec moi au service hospitalier Frédéric Joliot. Alors, là, il se trouve qu'il y a eu un premier papier qu'avait fait Georges Rada, qui était à Oxford, qui est devenu le directeur du MRC, après, qui avait montré qu'on pouvait déceler une myopathie par détection externe en regardant la RMN du phosphore 31. Et donc, moi, un peu naïvement, j'avais été voir Jules Horowitz pour lui dire que ça serait bien qu'au CEA, où il y a une école de magnétisme avec Anatole Abraham, on avait toutes les applications, cyclotron, caméra à positon, etc., ça serait bien d'avoir un aimant pour faire de la spectroscopie in vivo chez l'homme. Donc j'ai été le voir, je peux dire d'ailleurs que je me suis fait jeter, on va dire ça brièvement, et il se trouve qu'il y a eu une deuxième publication assez proche de RADA, dans la mine McArdle, montrant qu'on pouvait voir le pH intracellulaire simplement par détection externe. Je suis retourné voir naïvement Jules Horowitz, et, qui avait regardé les papiers, c'était bien lui, hein, et qui avait conclu que ça serait quand même très intéressant que le CEA se mette aussi à cette RMN in vivo. Mais il m'a dit, la RMN, c'est quand même quelque chose de trop sérieux pour être confié à des médecins. Et il m'a dit, bon, ben, on va organiser une petite réunion, et je me suis retrouvé avec, en face, d'Anatole Abraham, de Lionel Solomon, de Maurice Guéron, de Maurice Goldman, et qui ont conclu, et c'était la prescription d'Horowitz, qu'on avait besoin d'un cours par semaine de mécanique quantique avant la réalisation éventuelle d'un aimant. Et donc, Maurice Goldman a fait ce cours tous les lundis au service hospitalier Frédéric Joliot, que je dirigeais à l'époque, ce qui est devenu un bouquin chez Oxford Press, que vous voyez ici. Et simplement, j'ai mis la critique qui en a été faite dans le Journal of Magnetic Resonance, où vous voyez que ce que j'ai entouré en vert. Dans la préface, il est dit que ce livre vient d'une série de cours à un groupe, trois petits points, à un groupe de physiciens, de médecins, pardon, et de biochimistes intéressés dans les applications biomédicales, SIC, de l'ARMN. C'est difficile pour le reviewer d'imaginer qu'un groupe d'Américains équivalents serait capable de comprendre tout seul, d'apprécier le contenu de ce livre, qu'il faut dire, surtout dans sa première version, on n'était que des équations. Hein. Et Maurice Goldman m'avait dit, surtout quand puisque j'avais beaucoup travaillé, me disait, mais ce n'est pas grave, je me souviens de cette phrase, une équation est auto-explicative. Bon, donc, dans sa version, a été un peu plus développée, et on a évidemment tous basé, et ça a été évidemment cette intervention d'Anatole Abraham et Maurice Goldman, qui avait été délégué par Anatole Abraham pour faire ce cours, d'un extrême intérêt. Et voyez le premier aimant qui a été fait, qui était le record du monde, hein, 53 cm de Tesla, fait par le département de physique des particules élémentaires, c'était Robert Hurley à l'époque, hein, qui a été réalisé en 6 mois et qui a été installé en décembre 83 au SHFJ. Et je me souviens qu'Anatole Abraham était venu me voir, il s'est assis au milieu sur une chaise en bois, et il me dit, Monsieur Sirota, est-ce que vous connaissez la littérature byzantine? Je lui dis, bon, les mosaïques, moi, la littérature. Bon. J'étais un peu perplexe. Je pense que certains comprendront ce qu'il voulait dire. Maurice Goldman me l'a expliqué après. Pourquoi il était son attitude devant les applications médicales. Et donc, vous voyez ici ce premier spectromètre RMN avec Denis Le Bihan, qui était à l'époque interne dans mon service. Et vous voyez comment on mettait le malade, hein, ou le volontaire sain, plus exactement, dans une position qui n'est plus très admissible aujourd'hui, en fait, on met des lits maintenant quand même, hein, pour faire de la spectroscopie du phosphore 31 du muscle. Donc, cette spectroscopie RMN in vivo, qu'est-ce que c'est devenu depuis cette intervention, depuis cet aimant, et depuis le rôle de Jules Horowitz et d'Anatole Abraham? Eh bien, au début, ce que l'on faisait, c'était de voir, ce qui était déjà pas mal, hein, le phosphore 31, c'est-à-dire le phosphore naturel, et de voir les trois pics de l'ATP, la phosphocréatine, et de mesurer le pH intracellulaire, comme je l'ai dit. On pouvait, un peu plus tard, on a fait de la spectroscopie du proton dans le cerveau, et cette fois-ci, vous voyez le grand pic de N-acétylaspartate, qui est caractéristique des neurones, et tout un tas d'autres pics qui ont été identifiés. Alors, je fais un saut, hein, et qu'est-ce qui est devenu tout ceci aujourd'hui, au CEA, puisque je me contenterai, évidemment, de regarder l'évolution de toutes ces techniques à la suite du SHFJ. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on est capable de voir, si vous comparez les spectres initiaux, des études récentes qui ont été faites par de jeunes chercheurs, notamment qui viennent d'avoir un ERC, c'est qu'on est capable de voir en temps réel la consommation de glucose par la technique de CES, de Chemical Exchange Saturation Transfer. Et vous voyez, il y a même un... Voilà. Vous voyez qu'on est capable de suivre en irradiant le proton, le NH2 du glutamate, on est capable de suivre la saturation de l'eau et de voir, quand on fait une perfusion de glucose, la montée, puis on arrête, ça redescend, ça remonte, etc. Et surtout, on est capable d'en faire une cartographie directement de la consommation de glucose dans le cerveau. Autre exemple, le glutamate. Tout à l'heure, je m'excuse, c'était les protons du glucose, des 5-hydroxyles du glucose. Ici, c'est le glutamate où on irradie le NH2 pour suivre les protons de l'eau. Et vous voyez que le glutamate est un acide aminé excitateur dans le cerveau. Eh bien, on a fait une lésion cérébrale avec un lentivirus qui porte un facteur, une cytokine, qui, lorsque le lentivirus rentre dans le cerveau, les gènes vont exprimer ce facteur et vont activer les astrocytes, contrairement au côté sain, où on a fait la même préparation, mais avec le gène de la galactosidase, qui n'induit pas d'anomalie. Et ce que vous voyez, c'est que là encore, par cette technique de transfert de saturation, par échange chimique, eh bien, on est capable de voir l'activation des astrocytes avec les lésions sur une cartographie du glutamate dans le cerveau du macaque. Vous voyez l'évolution dans le domaine de la spectroscopie. Et je montrerai un dernier exemple extrêmement récent qui est basé cette fois-ci sur la spectroscopie de diffusion. Et vous voyez ici la diffusion donc de l'eau en fonction du temps de diffusion dans un neurone. Et bien, ce qui est tout à fait remarquable, ce qui va être publié, c'est qu'on peut regarder la diffusion du N-acétylaspartate ou du glutamate qui sont dans les neurones, la choline ou l'inositol qui sont plutôt dans les astrocytes. Eh bien, en regardant la diffusion de ces molécules dans les neurones, avec un modèle très simple qui est basé simplement sur le nombre de prolongements que peut avoir un axone, sur le nombre de segments successifs sur un même prolongement et sur la longueur moyenne entre deux segments, eh bien, simplement avec ces trois paramètres et la mesure du coefficient de diffusion apparent de ces solutés, eh bien, on est capable d'inventer la forme que doivent avoir les cellules. Et voyez ici une coupe histologique où vous avez des astrocytes, et ça, c'est le résultat du modèle basé sur la spectroscopie de diffusion qui permet de reconstruire artificiellement la forme des astrocytes, et on peut faire la même chose en reconstruisant la forme des neurones. Je passe maintenant à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. L'autre grand champ qui a été développé, là aussi, 1973, je me souviens de ces premières images de tubes d'eau et de tubes d'huile qui ont été les premières images de RMN qui ont été produites. Et puis, il y a eu ensuite les premières images de cerveau. Vous voyez qu'on reconnaît à peine le cerveau dans la boîte crânienne. Ce qui nous intéresse là aujourd'hui, ce n'est pas l'imagerie, c'est l'activation cérébrale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en train de regarder l'écran ou de m'écouter ? Alors, vous savez que dans ces cas-là, il y a des canaux ioniques qui s'ouvrent, qui laissent rentrer le sodium, qui laissent sortir le potassium, donc des potentiels d'action qu'on est capable de détecter en électroencéphalographie ou en magnétoencéphalographie. Mais ça ne fait pas d'image. Pour faire des images, on va regarder la consommation d'énergie, c'est-à-dire l'augmentation du débit sanguin cérébral ou la consommation d'oxygène qui se passe lorsque vous êtes en train de regarder cet écran. Et ça a été faisable d'abord en tomographie par émission de positons et ensuite en imagerie fonctionnelle par RMN. Donc voilà ce qui se passe lorsqu'on ingère, c'est les premières manips qu'on a faites, il n'y avait pas encore d'IRM fonctionnel, c'est donc de la radioactivité, on injecte du glucose, un analogue, le FDG marqué au fluor 18, qu'on produisait sur le cyclotron du service Frédéric Joliot, et vous regardez une mire et vous avez une augmentation de la consommation de glucose dans la région visuelle, ce sont les premières images qui ont été obtenues. Après, on a fait la même chose en faisant vibrer les doigts, par exemple, de la main gauche, et vous voyez apparaître dans le cortex moteur du côté opposé, vous voyez apparaître une augmentation du débit sanguin cérébral, et tout ça est superposé à une image en RMN, mais qui est une image purement anatomique. La révolution est venue par Béliveau et Ogawa, qui ont deux techniques différentes, mais aujourd'hui seule la deuxième est la bonne, ont permis de voir, et maintenant vous allez le voir en direct, de voir ce qui se passe véritablement dans le cerveau en temps réel. Et l'idée, c'est que dans les conditions de base, le sang est oxygéné, mais contient relativement plus de déoxyhémoglobine que d'oxyhémoglobine quand il y a une activation, qui a besoin de plus d'oxygène. Or, la déoxyhémoglobine est paramagnétique, l'oxyhémoglobine est diamagnétique, et donc il y a une modification, un allongement du temps de relaxation T2 étoile, parce qu'on ne mesure pas réellement le vrai T2, mais c'est ça que l'on va mesurer en imagerie, qui s'appelle la technique BOLD, Blood Oxygenation Level Dependent, FMRI, et voyez une expérience classique, l'une des premières expériences, ou bien le sujet est en tâche contrôle, imaginez, on lui met une cible lumineuse, augmentation du signal, arrêt, augmentation du signal, etc. C'est totalement non-invasif, il n'y a plus de radioactivité, on n'injecte rien. Et à la suite de ça, Jean-Pierre Changeux m'avait conseillé de faire venir Stanislas Dehaene au SHFJ, ce qui a été un excellent conseil, une excellente suggestion. Et ça a été les premiers travaux de Stanislas Dehaene montrant, que vous connaissez, sur le calcul exact, sur le calcul approximatif, il a écrit des bouquins là-dessus, et montrant qu'il y a des zones différentes qui s'activent lorsque on demande de faire 6 plus 8, ou si on dit est-ce que 6 plus 8, c'est plus grand ou plus petit que 20. Et il a continué avec le langage, et je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer l'évolution depuis ce premier spectromètre RMN, ce que l'on fait aujourd'hui, où vous voyez par exemple ici où on présente au sujet volontaire des mots qui sont visibles, il peut lire sur l'écran les mots, quelle que soit la forme avec laquelle ils sont écrits, et puis on leur présente des mots masqués, c'est-à-dire que sur l'écran, le mot apparaît, il apparaît en 40 millisecondes, et même si vous savez que le mot y est, vous ne pouvez pas le voir. Et néanmoins, il y a un signal qui apparaît lorsque le mot est masqué, c'est-à-dire lorsqu'on ne peut pas le voir. Vous voyez ici, qui est plus faible, évidemment, mais il y a une augmentation du signal. Et il a montré, donc, que d'une part, il y avait un processing inconscient, en même temps que le processing conscient, et aussi qu'il y a une aire très particulière, qui est l'aire de la forme visuelle des mots, qu'il a identifiée, qui est la véritable boîte aux lettres du cerveau, puisque c'est une activation qui est détectable en quelques minutes d'IRM chez tous les lecteurs, qui est absente chez les enfants pré-lecteurs et chez les illettrés, qui est située toujours au même endroit que vous voyez ici dans toutes les cultures, mais qui n'existe que pour les écritures connues de la personne qui se fait scanner. Et lorsque il y a une lésion qu'on appelle une alexie, eh bien le sujet est capable de lire les lettres, mais incapable de lire le mot, qui existe quand il y a un accident vasculaire cérébral très particulier. Et donc, il y a une aire responsable de l'invariance perceptive, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître les mots, qu'ils soient en minuscules, en majuscules, en italique, comme vous le voulez, que c'est un système automatisé qui s'active, comme je viens de le dire, même sans conscience d'avoir vu le mot. Et qu'il y a, en plus de ça, des travaux plus récents où il a montré qu'il y avait toute une organisation hiérarchique. La partie arrière reconnaît des fragments de lettres, la partie avant des lettres et leur groupement. Je vous donne un autre exemple sur l'organisation fonctionnelle des réseaux neuronaux qui sont mis en jeu lors du langage, où cette fois-ci, on présente au sujet des phrases qui font toujours 12 mots, mais comme vous pouvez le voir, celle qui s'appelle C12, la suite des 12 mots, c'est une phrase qui a un contenu sémantique. Donc, quand il y en a 6, ben, vous voyez que il y en a, les 6 premiers mots ont un sens, les 6 suivants aussi, et vous voyez que le C01, eh bien, c'est simplement une suite de mots, il n'y a aucune liaison entre ces mots. Eh bien, il a comparé c'est des sujets qui sont normaux, qui savent lire, et il les a comparé ces phrases avec la même organisation, sauf que cette fois-ci, c'est des pseudo-mots, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas dans le dictionnaire. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a un certain nombre de zones qui s'activent, quelle que soit plus la longueur, évidemment, de la phrase augmente, hein, il y a une activation importante qu'on peut déceler, mais c'est la même qu'il s'agisse de mots du dictionnaire ou de mots qui n'y sont pas. Et donc, ce sont des airs qui sont, que vous voyez ici en rouge, et qui sont purement lexicales, alors que d'autres zones ne s'activent que lorsqu'il y a un contenu sémantique. Et donc, lorsqu'il y a des pseudo-mots, eh bien, il y a une différence que vous voyez ici dans le cortex temporal postérieur, etc., que vous voyez ici dans le sillon temporal supérieur et d'autres. Donc, vous voyez la finesse avec laquelle on arrive maintenant à faire ce lien entre la psychologie, la linguistique et puis l'imagerie qui se base sur une méthodologie et notamment un traitement mathématique des données qui est assez complexe. Et on peut aller encore plus loin, et ce sera le troisième exemple que je prendrai de la suite donc des travaux au CEA et à l'INSERM, je n'ai pas oublié l'INSERM, de Stanislas Dehaene, c'est de regarder les déterminants génétiques de la variabilité interindividuelle, des travaux qui sont faits avec Thomas Bourgeron à l'Institut Pasteur, où cette fois-ci on va combiner à la fois un ensemble de données d'imagerie, en faisant le sujet écoute des phrases, fait des soustractions, d'instructions motrices, etc. On le combine à des données anatomiques, à des données cognitives, et cette fois-ci à des données génétiques. Et voilà un exemple qui montre que chez des sujets qui ont des variations génétiques de certains gènes, en particulier du gène de la dyslexie, et du gène FOXP2, qui est un gène très important dans l'acquisition du langage et qui fait un peu la différence entre l'homme et les animaux, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a, lorsqu'il y a uniquement ces anomalies, vous voyez ici les différentes combinaisons alléliques, il y a des zones avec FOXP2 qui s'activent et qui sont liées uniquement à ces anomalies à ces mutations qui apparaissent dans le gène. L'autre grand développement qui a été fait et qui a été totalement nouveau et totalement innovant, c'est les travaux concernant le cerveau de l'enfant. C'était une terra incognita totale, et ce qu'on ne savait pas du tout, il y avait les travaux de Piaget qui s'avéreront totalement faux, hein, mais la psychologie de l'enfant était basée beaucoup sur ces travaux. Et en fait, ce qu'a montré Ghislaine Dehaene, c'est qu'en réalité, le cerveau de l'enfant est capable de comprendre le langage beaucoup plus tôt que ce qui était pensé. Et ça a été possible en mettant des bébés sur l'appareil d'imagerie du SHFJ, qui était une première, parce que je ne sais pas si vous imaginez qu'il faut avoir des enfants, des bébés qui ne dorment pas, qui ne hurlent pas et qui ne bougent pas, hein, et elle en a quand même trouvé, qui était très gentil, et pour lequel, puisqu'il était hors de question évidemment de les contraindre, hein, pour faire ces études, qui ont donné lieu à des papiers fameux, hein, et y compris la couverture de Nature, et ses travaux qui, vous voyez ici un enfant, cette fois-ci dans la magnétoencéphalographie. Et donc, c'est tout un ensemble de travaux qui ont été faits, et ce premier, un peu morbide, hein, je le reconnais, hein, sur cette image, hein, donc d'une coupe IRMN de l'enfant, montrant qu'un enfant, c'est un travail qu'il a publié en 2002, que le bébé est déjà capable très tôt d'être sensible au langage. Alors, à partir de là, il y a toute une équipe, d'informatique et de mathématiciens, qui travaille sur d'essayer de, à partir des données qu'on peut avoir sur des prématurés, on peut même faire de l'IRM maintenant in vivo chez le fœtus, hein, et voir le cerveau in vivo, de voir comment se fait le plissement cérébral et d'être capable de prédire comment va se faire le plissement et l'apparition des sillons cérébraux. Donc je ne vais pas aller le détailler, c'est l'équipe notamment de Jean-François Mangin, en montrant qu'on a des modèles prédictifs pour calculer et prédire ce que va devenir le plissement. Donc les régions du langage sont bien organisées chez le bébé. Vous voyez que les régions temporales et frontales inférieures sont déjà activées par le langage parlé. Vous voyez un enfant ici, un bébé de 2 mois. Et la référence, c'est la fameuse aire de Broca, hein, qui est bien connue chez l'adulte. Avec l'asymétrie en faveur de l'hémisphère gauche déjà présente dans le lobe temporal. Donc voilà un résumé, hein, obtenu donc grâce à cet IRM fonctionnel. Vous voyez donc le chemin parcouru, hein, par cet IRM fonctionnel depuis le tube d'huile et le tube d'eau, où on peut montrer que l'activation cérébrale, donc on voit maintenant de l'ensemble des aires du langage parlé en réponse à des phrases écrites. C'est un papier de Science de 2010 où Stan a regardé ce qui se passait chez les illettrés, c'est-à-dire que c'était difficile à trouver, mais on l'a trouvé à l'étranger, je ne vais pas dire dans quel pays, de regarder ce qui se passe pour des illettrés des adultes qui ont appris à lire plus tard, et donc en montrant qu'il y avait un codage orthographique dans une région visuelle de l'hémisphère gauche, qui est justement cette boîte aux lettres, cette aire de visuel qu'il a découvert et que vous voyez ici. Vous voyez ici les mots parlés, les phrases parlées, je n'ai pas le temps de détailler tout cela, mais qui vous montre la puissance de cette méthode d'imagerie combinée donc à la psychologie ou à la linguistique. Donc, lecture, calcul, donc bien que s'il s'agisse d'objets culturels, hein, que ce soit l'écriture ou que ce soit les chiffres arabes, il y a donc une acquisition à travers l'apprentissage, sans qu'il y ait de pression sélective. Et néanmoins, on retrouve chez tout le monde les mêmes aires. Et vous voyez maintenant la dissection, hein, virtuelle à laquelle on peut arriver, hein, et tout n'est pas mis évidemment, hein, au niveau de chacune de ces aires cérébrales, séparées chacune par un sillon. Vous voyez ici, hein, ce qui se passe dans cette zone de la forme visuelle des mots, lorsqu'il y a des mots, des visages, des objets, etc. Il a écrit ça, hein, dans un bouquin qui est paru en France et dans le reste du monde. Alors, à partir de là, hein, il y a eu une explosion, hein, des méthodes d'imagerie, qu'il s'agisse de l'électroencéphalographie, qui n'est pas quantitative, mais qui a l'avantage d'avoir une résolution temporelle extrêmement bonne. On peut voir la milliseconde, ce qui n'est pas le cas, évidemment, avec la RMN, qui malheureusement a une sensibilité, et c'est quand même assez extraordinaire qu'on soit arrivé à cela, hein, pour les physiciens qui ont toujours dit que la sensibilité était très mauvaise. Et la magnétoencéphalographie, que l'on a également développé. Et vous voyez ici, donc, je vais vous en parler dans un instant, et ici c'est les enregistrements intracrâniens que l'on fait chez des malades épileptiques que l'on opère, et qui permet quand même de corréler ce qu'on obtient in vivo avec la réalité par des électrodes directement implantées dans le cerveau. Donc on a développé toutes ces techniques au CEA, et Donc, j'avais proposé que l'on construise un nouveau centre qui s'appelle Neurospin pour développer toutes ces techniques. Et vous savez que c'est ce qui a été réalisé à Saclay, où se trouvent maintenant les équipes de Stanislas Dehaene. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, l'autre aspect que nous avons développé, et c'est aussi la suite directe, vous allez le voir, d'Anatole Abragham, c'est ce qu'a fait Denis Le Bihan sur l'imagerie de diffusion, puisqu'il a inventé l'imagerie de diffusion qui est utilisée maintenant dans tous les services du monde de façon routinière. Et cette imagerie de diffusion, elle est basée sur l'idée qu'on pourrait mesurer non pas la constante de diffusion de l'eau, mais une constante de diffusion apparente, les mouvements de l'eau étant limités du fait qu'il y a des membranes dans les cellules et qu'il y a une membrane qui sépare le neurone ou l'astrocyte de l'extérieur. Donc c'est ça ce qui est montré ici. Et c'est ce qu'il a, donc vous voyez ici, la mesure de cette constante de diffusion apparente qui varie selon que le milieu est plus ou moins liquide et selon la composition cellulaire. Et ceci, il l'a fait après son internat, quand il est parti au NIH, et avant qu'il ne retourne au SHFJ. Et c'est un papier, donc, je vous passe sur la technique. Mais ce que je voulais simplement vous faire remarquer, c'est que cette première publication dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, qui ont été cités tout à l'heure, néanmoins, c'est Anatole Abragham qui l'a communiqué. Et les autres publications, évidemment, qui ont suivi, se sont faites en anglais dans des journaux, semble-t-il, mais je ne fais que reprendre, dans des journaux à plus forte lecture. Alors voilà, par exemple, c'est ce qu'il a fait sur l'imagerie. Vous voyez qu'on est parti de zéro, et aujourd'hui, le nombre de publications sur l'imagerie de diffusion est assez considérable, plus de 20 000 publications. Il y a des applications qui se font dans de très nombreux domaines, en particulier, vous le voyez ici, dans les accidents vasculaires cérébraux, où vous voyez que la diffusion apparente de l'eau décroît dans la zone où il y a eu une occlusion artérielle, et c'est une méthode qui est utilisée quotidiennement pour détecter les accidents vasculaires cérébraux. Vous le voyez ici chez l'homme, et vous voyez la qualité de l'image à laquelle on peut arriver en voyant la zone ici infarcie. Donc, vous voyez qu'il y a une chute de ce coefficient de diffusion de l'eau de 30 à 50% dans les 6 premières heures. Alors, après, il faut savoir, une autre application très récente, c'est de faire la même chose dans le cancer, en montrant là aussi que la constante de diffusion apparente n'est pas la même dans les tissus cancéreux et dans les tissus sains. À partir de là, Denis Le Bihan s'est intéressé justement à cette anisotropie de diffusion, dont j'ai montré un exemple avec la spectroscopie de diffusion tout à l'heure, en montrant que du fait de la forme des neurones, et que le neurone a un axone, un prolongement, qui fait plusieurs centimètres, voire un mètre, pour ceux qui arrivent dans les fibres avec le nerf sciatique, eh bien que la diffusion de l'eau doit être, encore une fois, apparente, différente selon qu'on est perpendiculaire à la fibre, où là on a une distance de quelques microns, et le long de la fibre, où là ça peut faire plusieurs centimètres. Et donc, à partir de là, donc, il a fallu mettre au point des méthodes, et notamment une méthode de mesure du tenseur de diffusion de l'eau in vivo, que vous voyez ici, et qui a permis, après des techniques d'écho de spin, de mesurer l'anisotropie de diffusion et d'aboutir aujourd'hui à des images qui sont absolument exceptionnelles, comme vous les avez vues déjà tout à l'heure. Donc, ce qui est devenu intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez vu qu'il y a deux méthodes différentes. L'une, la méthode BOLD, celle qu'utilise Stanislas Dehaene, basée sur l'augmentation de l'hémoglobine par rapport à la déoxyhémoglobine. Et puis, l'imagerie de diffusion, qui est un mécanisme totalement différent, mais qui donne exactement des activations, par exemple ici dans le cortex visuel, identiques. Et l'idée, c'est que par rapport à la technique BOLD, vous voyez que ces techniques d'arrivée du signal en mesurant la diffusion de l'eau est bien plus précoce que le signal BOLD, qui est une retombée métabolique, qui est donc bien plus tardive. Et donc, cette imagerie de diffusion pourrait donner des résultats qui sont beaucoup plus proches de la magnétoencéphalographie que de l'imagerie elle-même, tout en étant obtenue par détection externe. Donc ça, c'est un développement extrêmement récent. Et voyez ici ce que l'on fait maintenant comme cartographie de la connexion cérébrale, ce qu'on appelle aujourd'hui le connectome, toujours obtenu par imagerie de diffusion, du tenseur de diffusion. Vous voyez ici la correspondance. Vous voyez ici un cerveau coupé, hein, d'un homme, hein, coupé. Vous ne voyez pas grand-chose. Hein, et regardez superposé les faisceaux qui apparaissent. Donc on a maintenant, grâce à l'imagerie, des résultats bien plus visibles, hein, que l'anatomie dont parlait Bichat tout à l'heure. Alors, où on veut aller? Eh bien, l'objectif de tout ça, c'est l'objectif que j'avais souhaité pour Neurospin, où les deux équipes se trouvent maintenant. À Neurospin, dans ce bâtiment que certains ont dû voir, il y a à la fois un aimant à 3 Tesla, un aimant à 7 Tesla, il y a un aimant à 17 Tesla, qui est un record du monde pour le petit animal, il y a du 7 Tesla, du 11-7, enfin, il y a beaucoup d'aimants, beaucoup de chercheurs. Il y a également des lits, donc on peut avoir des enfants, des adultes. Et l'idée, vous voyez ici l'aimant à 17 Tesla, qui permet d'imager des cerveaux de singes, donc à Saclay. Et l'idée, c'est qu'on avait dès le début, hein, c'est de monter en champ, puisque, bien entendu, plus le champ est élevé, meilleur sera le rapport signal sur bruit. Donc on est parti, il y avait même autrefois des gens qui faisaient de l'ARMN en champ, dans le champ terrestre. Hein. Il y avait un physicien qui faisait ça, Annemasse, dans le champ terrestre. Bon, on ne voyait pas grand, évidemment, il n'y a pas d'imagerie. Mais les premiers aimants étaient à 0,2 Tesla, c'était des aimants permanents, puis il y a les aimants supraconducteurs, à 1,5 Tesla, les gens ont dit c'est de la folie, 1,5 Tesla, des aimants supra. Bon, c'est devenu la routine, si vous avez besoin d'un examen IRM, en majorité c'est des appareils à 1,5 Tesla. Des 3 Tesla, il y en a maintenant 3000 dans le monde, c'est là-dessus qu'on travaille. Des 7 Tesla, il y en a 40, et des 9,4, il y en a 4. Et nous, le projet que nous avons, c'est d'aller dans des champs encore plus élevés, à 11,7 Tesla. Et ce projet, vous avez ici la maquette, hein, de cet aimant qui comprendra 182 km de niobium titane, qui devrait évidemment avoir une très bonne homogénéité. Il y a un petit problème, c'est que l'énergie stockée est quand même de 328 mégajoules, donc il ne faudra pas qu'il quench, puisque là on battra le laser mégajoule. Hein. Et vous voyez que cet aimant, là encore, ben, il est fait avec le CEA, qui s'appelle maintenant l'IRFU, donc l'ancien département de physique des particules élémentaires. C'est un concept de galette, donc ce n'est plus un solénoïde. Et vous voyez la place du sujet là-dedans, hein, donc il est assez énorme, hein, 90 cm de diamètre. Et donc voilà un peu comment il va être. Alors, est-ce que c'est... Il faut une usine pour produire l'hélium, hein, que nous avons actuellement à Neurospin, qui est installée. Et est-ce que c'est ce projet? Ben, j'espère que dans un an, il sera réalisé. On a eu beaucoup de retard. Il est en cours de construction chez Alstom à Belfort, en même temps que le TGV et que l'aimant d'ITER, enfin, un des aimants d'ITER. Vous le voyez ici. Donc, vous voyez que la construction est quand même déjà bien avancée. Vous le voyez... les divers éléments de cet aimant à 11,7 Tesla. Et donc, l'idée, c'est, avec de tels instruments, de comprendre encore mieux le fonctionnement du cerveau. Alors, vous voyez, pourquoi quand je dis en reconnaissance Anatole Abraham, en fonction de ce que je vous ai dit avec les premières manips, hein, le premier aimant que l'on a construit, et je veux dire, grâce à lui, car il aurait dit non, Jules Horowitz aurait aussi dit non, je pense, hein, eh bien, on a pu faire tout ce qui est fait actuellement. Et je pense que c'est les groupes, que Denis Le Bihan, de Saint-Slas de Hanne, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, sont quand même parmi les meilleurs groupes dans le monde dans ce domaine, si ce n'est les meilleurs. Merci. Thank you.